Radio. Le remède à la désinformation. Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio.
Alors, Alex, donc dans un petit peu moins d'une heure, d'abord, faut rappeler que François Legault est sorti de confinement, je pense c'est à midi, que ses journées étaient terminées. Et ben, ça tardera pas avant qu'il fasse une première conférence de presse d'importance, parce que comme je disais, dans un peu moins d'une heure, on va présenter ça. Peut-être une des conférences de presse les plus suivies là, depuis celle du printemps.
Ouais, absolument. Où on va annoncer des choix difficiles, c'est ce qu'on sait. On s'attendait déjà à ce que Montréal puis Québec virent en zone rouge, mais là, on a appris de par le journal de Montréal que la région de Chaudière-Appalaches va également passer en zone rouge, ou devrait plutôt le passer en zone rouge.
Mais ça, ça me dit que quand j'ai entendu cette nouvelle-là, on sait peut-être pas tout. Peut-être que Laval va y passer aussi. Peut-être que c'est toute la CMM, le Laval, Longueuil, Laval de la Rive-Sud, Laval, la Rive-Nord, toute la communauté métropolitaine de Montréal, le Grand Montréal. J'ai hâte de voir, là, mais quand j'ai vu Chaudière-Appalaches apparaître dans la liste, ça m'a dit « Oups! » L'annonce est peut-être plus grosse qu'on pense.
Absolument, puis on va savoir aussi, c'est le premier mystère. Le deuxième, ça va être quoi les modalités de cette fameuse zone rouge-là? On le sait pas encore, outre que c'est le palier maximal d'alerte qu'on peut atteindre.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? Mais il faut qu'il y ait des conséquences, parce que le gouvernement a parlé de choix douloureux. Il ne peut pas convoquer tout le monde, changer la couleur, faire passer des régions en zone rouge, puis finalement, c'est juste des avertissements, tout reste pareil. Là. Il va y avoir, je pense qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait des impacts et qu'il y aura donc des grincements dedans, des propriétaires de commerce et autres là qui vont le prendre difficilement. On s'est parlé il y a quelques minutes de la décision du maire Labeaume là, de cesser d'investir des dollars de publicité pour les annonces de la ville de Québec à Choix Radio X à Québec à cause de considère qu'au niveau de la santé publique ils ne font pas ils ont pas un comportement acceptable. Là ça fait boule de neige. Tantôt on parlait d'une ou deux chaînes de restaurants, mais il y a plusieurs autres acteurs de l'économie de Québec qui débarquent là.
Ben oui, le premier mais non le moindre là, Hydro-Québec qui va cesser d'annoncer sur les ondes de Radio X. Ils ont pas de pub en ondes en ce moment, mais il y avait des achats qui étaient prévus qui ont été déjà retirés. Viennent à ça s'ajouter Mercedes-Benz de Québec, le groupe Paquet, IA Groupe Financier, Industrielle Alliance. Donc vraiment là depuis ce matin là, c'est l'hécatombe là du côté des publicitaires de Radio X. Un après l'autre le font là, l'annonce qu'ils vont cesser de mettre leur publicité sur cette radio là. Le mal à bombe, je sais pas s'ils s'attendaient à créer un effet boule de neige comme ça, mais c'était son objectif. C'est grandement réussi là, Mario.
Ouais, on va voir. C'est tout un cul-de-sac pour eux. Là. C'est toute une situation parce que ce que tu demandes à tes animateurs, ou ce que tu demandes à tes animateurs et tes chroniqueurs de changer leur point de vue, ils ont le droit de critiquer le gouvernement, mais là, s'ils ont fait des bêtises, s'ils ont mis en onde des gens qui étaient pas sérieux, c'est assez compliqué. Je voyais des gens sur les réseaux sociaux qui disaient tout à l'heure que Choix Radio X devrait corriger ses messages parce que, par exemple, l'entrevue avec un conspirationniste, semble-t-il, que si tu cliques dessus présentement, ça te donne la fameuse, c'est quoi, c'est erreur 404?
Ouais. Error 404, ouais, absolument, l'erreur 404, comme quoi ça n'existerait plus ou le contenu
le
a été
site
retiré.
Internet. Ouais, c'est l'équivalent de ce que François Pérusse appelait pour le téléphone, le Fidouda, là, le numéro Fidouda que vous avez composé n'est plus en service, là, c'est ça.
On a écouté même 10 dans l'auto.
Les critères pour le dépistage, évidemment, là, on fait beaucoup de tests, on a voulu que les gens massivement aillent se faire tester. Mais là, on commence à trouver ça lourd. Il y a trop de monde à tous les centres de dépistage, de tests. Et le gouvernement qui resserre donc les critères pour justifier d'aller passer le test.
Ouais, le ministère de la Santé et des Services sociaux qui a annoncé ça cet après-midi. Maintenant, on va prioriser le dépistage des personnes qui sont A, soit symptomatiques, ou B, qui ont été en contact directement avec une personne infectée, parce qu'on dit que les possibilités là, de développer la maladie sont plus élevées chez ces deux types de symptômes-là, de maladies-là, si on veut dire, de clients plutôt. On dit aussi que l'accès au dépistage pourrait être refusé à une personne qui fait pas partie de ces clientèles sélectionnées-là. Alors vraiment, là, sauf si un médecin, un professionnel de la santé recommande ou demande à quelqu'un d'aller passer un test, ils disent que dans le doute, le ministère va conseiller de se référer à l'outil en ligne d'auto-évaluation des symptômes de la COVID. Mais vraiment, moi, j'écoute, j'avais un ami ce matin qui a tenté d'aller se faire tester, Mario, un centre qui était censé être ouvert de 9 à 5 à Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Il s'est rendu là à 11 heures et on lui a dit qu'il n'y avait plus de test, c'était fini. Il y avait déjà trop de gens. Alors, je pense que effectivement, c'est surchargé.
Ce matin, d'après moi, ça devait être le pire parce qu'un lundi matin, après une grosse fin de semaine, en fin de semaine, il y avait peu de cliniques sans rendez-vous qui étaient ouvertes. D'après moi, il y a pas mal de gens là, qui ont commencé à avoir des symptômes ou des inquiétudes ou qui ont su en fin de semaine qu'ils avaient que quelqu'un avec qui ils avaient été en contact a été positif. Donc, c'était prévisible là, que le lundi matin, ça allait les gens allaient se ruer vers les centres de dépistage, donc des critères donc plus restrictifs.
On dit que c'est temporaire, d'ailleurs.
Oui, mais c'est parce que j'ai entendu des gens, le fameux 35 000 tests, là, le gouvernement s'était fixé ça comme objectif, l'a atteint, il faut applaudir, ils l'ont à 30 ans, je pense qu'ils ont une journée à 36 000. Mais moi, on m'a dit, tu sais, à un moment donné, t'en fais, je sais pas, mettons, une business qui est capable d'empocher 10 000 sacs de patates par jour, puis qui réussit à faire 3 journées de suite à 14 000, là. Mais je veux dire, elle peut aussi dire l'entreprise, garde, on t'offre pas, là. Tu sais, les employés ont fait du temps supplémentaire. Il y en a un qui menace de démissionner, l'autre a mal dans le dos, l'autre ses enfants braillent, tu crois? Tu sais, tu as étiré la machine, donc t'as lié. Donc là, on me dit, on est un peu là-dedans, là. C'est-à-dire le ministère de la Santé, le système de santé, on a emprunté des gens aux hôpitaux, on a fait, tu sais, parce que là, ça en prend du monde pour faire les tests, d'envoyer le petit écouvillon dans le nez, puis sortir, puis remplir les papiers, puis c'est ça au bon dossier, parce qu'il faut que tu rappelles la bonne personne, faut pas que tu les... Donc, on a étiré la machine au max pour aller chercher autant de tests, mais on dit on pourra pas, il y a des gens, pour faire ça, il y a des gens qui ont pas pris leurs vacances, des gens qui ont fait du temps supplémentaire. On pourra pas, jusqu'au mois de novembre, maintenir cette quantité de tests-là.
Ouais, puis on oublie, on en parlait tellement au début de la pandémie, mais ces gens-là, tu sais, pour être allés me faire tester là quand même récemment, ils suivent des mesures de protection là, parmi les plus sévères, là, si on veut. Là.
Oui, parce qu'eux autres, ils ont devant eux, toutes des gens qui pensent avoir la COVID.
Exact.
Pour toutes sortes de raisons, là, qui ont des symptômes ou qui ont été en contact avec quelqu'un. Mais t'as juste des potentiels infectés dans ta face.
Ah ouais, puis t'es dans les mesures, la visière, le masque, l'équipement de protection de la tête aux pieds que tu dois changer constamment. Ça doit être des conditions là complètement folles. Surtout quand tu le dis toi-même, là, on étire l'élastique, on demande à tout le monde de donner son 110%. Mais à un moment donné,
pour l'instant, je rappelle que pour l'instant, dans la plupart des endroits, on attend dehors.
Ouais.
Et ça, on est à quelques semaines que ça va devenir...
froid.
Ouais, drôle, mais ouais. Puis, tu sais, le début novembre, là, quand il fait 3 degrés puis il pleut avec du vent...
Attendre 3 heures dehors, ça va être pas mal moins agréable. Hein?
Pas le fun, pas longtemps. Donc, cette femme de Saint-Hubert qui était accusée aux États-Unis, avait une étape importante aujourd'hui et elle a pas... Ben, je pense qu'on est mieux de se préparer à dire souvent elle a pas gagné. Là.
Effectivement, le Pascal Ferrier, là, cette femme de 53 ans qui était de retour aujourd'hui là, devant le tribunal à Buffalo, dans l'État de New York. Aujourd'hui, on a refusé sa libération avant le procès. C'est ce qu'elle demandait parce qu'on dit qu'il y aurait des risques et pour la sécurité de certains hauts membres, dont le président des États-Unis, ainsi que certaines preuves qui laissent croire qu'elle pourrait être dangereuse parce que la police a découvert des traces de ricine. Là. C'est confirmé dans l'appartement de Pascal Ferrier, le procureur fédéral américain aujourd'hui.
Oui. Ça, c'est le FBI qui a reçu ces éléments d'enquête-là de la descente de la GRC.
Exact. Le procureur fédéral qui disait qu'il venait de recevoir les résultats d'analyse du Laboratoire national de microbiologie, du Canada. Puis ça confirmait qu'il y avait des traces de ricine justement sur un mortier dans l'appartement. Donc, elle aurait pilé, si on veut, cette poudre-là pour la mettre dans les enveloppes. Là, c'est ce qu'on peut déduire de tout ça. C'est une équipe de la GRC, de la Gendarmerie royale du Canada, qui était assistée là par une équipe de l'armée canadienne experte en armes chimiques et bactériologiques qui ont procédé à passer au peigne fin l'appartement de cette dame-là. On dit aussi, il y a d'autres éléments qui ont été révélés de l'enquête, entre autres, que quand elle s'est présentée au poste frontière qui relie Buffalo et l'Ontario, elle aurait elle-même dit là d'emblée, c'est moi qui ai envoyé les lettres que tout le monde là panique dessus en ce moment à la ricine. Elle avait sur elle un pistolet semi-automatique, à peu près 300 cartouches fonctionnelles, un couteau à ressort, un pistolet à impulsion électrique, plus communément appelé là, un taser, une matraque, puis un faux permis de conduire du Texas. Puis on comprend aussi que elle avouait en interrogatoire avoir envoyé ces lettres-là et les autres lettres qu'elle avait envoyées justement au Texas qui contenaient elles aussi de la ricine, elles auraient été envoyées aux policiers qui l'avaient détenue dans un voyage précédent en 2019. Elle avait été arrêtée justement pour avoir un faux permis de conduire texan. Il semblerait qu'elle aurait voulu se venger, là, selon toute évidence, là, de ces gens-là, en plus du président des États-Unis, Donald Trump.
Ouais. Ça va pas bien, là.
Ben, elle est accusée d'avoir menacé de mort le président américain.
Non, je comprends, déjà, mais je veux dire, ouais. Les décisions qu'elle a prises, les aveux qu'elle fait aux frontières, je veux dire... c'est les gestes, là. C'est qu'il n'y a pas de stratégie, ce que je veux dire. C'est les gestes d'une personne mi-chemin entre un peu perdu, désespéré. Est-ce que ça sera suffisant? Parce qu'en même temps, pour être jugé inapte à subir son procès, faut être incapable de différencier le bien du mal. En gros, c'est ça le critère, là.
Ouais.
Et je suis pas sûr qu'elle va passer ce critère-là, qu'elle est capable de différencier le bien du mal.
Ouais, puis déjà la poursuite l'a annoncé qu'il allait avoir de nombreux autres chefs d'accusation qui allaient s'ajouter, qui n'ont pas été annoncés encore. Donc non, elle est vraiment pas sortie du bois, comme on dit.
Le Bloc québécois qui a présenté son plan de relance.
Oui, le plan de relance, le Québec choisit, le Bloc agit. Document d'une vingtaine de pages là qui a été révélé aujourd'hui pour relancer l'après-pandémie. Là. On dira peut-être que ça tombe mal au moment où on s'apprête à annoncer là, des zones rouges, deuxième vague et tout. Mais déjà, là, plusieurs grandes lignes qui sont présentées par le Bloc qui eux-mêmes disent être infiniment plus précis que le discours du trône. Là, c'est ce qu'on dit. Ils demandent entre autres, là, si je le résume rapidement, d'investir dans la transformation énergétique, entre autres au Québec, pour se départir des hydrocarbures. Il demande une commission d'enquête également sur la pandémie, sur la gestion fédérale du gouvernement en temps de pandémie. Évidemment, redemande les transferts augmentés en santé pour les provinces. Aussi, il demande au gouvernement de fournir un budget, hein, ce qui n'a pas vraiment été fourni jusqu'à date, des projections de finances publiques pour les 3 prochaines années, au minimum dès la rentrée parlementaire. Puis ici et là, d'autres soutiens aux entreprises québécoise, augmenter de manière permanente la sécurité de vieillesse de 110$ par mois, etc., etc. Mais bref, un plan de relance qui vient vraiment en contradiction avec, si on peut, si on veut, le discours du trône qui a été présenté la semaine dernière.
Alex, c'est vraiment malheureux que le mandat de Mme Julie Payette ne passe pas mieux parce qu'elle avait eu une si belle intronisation.
Une intronisation qui a coûté cher, Mario, hein? Des documents fédéraux là, qui ont été rendus publics puis qui ont été repris dans le National Post, là, qui, eux, ont étendu là, tout ce que ça a coûté, cette cérémonie d'intronisation. En 2017, lorsqu'elle est devenue gouverneur général, ça aurait coûté aux contribuables 649 000 $, Mario, alors qu'il y avait un budget de 500 000 $ déjà.
C'est un beau party, ça?
Ouais, c'est un beau party, là. Écoute, puis d'ailleurs, c'est détaillé.
À l'époque, on avait le droit de se réunir, là. On pouvait dépenser pour ça.
Ben, c'est ça. Quand on sait, c'est en deux parties quand même, Marion, on peut se le dire. Une cérémonie en plein milieu du jour pour 1000 invités, puis un cocktail party, un petit party cocktail le soir pour 2000 personnes au Musée canadien d'histoire. Ça a été approuvé tout ça par Mélanie Joly, hein, on le souligne dans l'article. Entre autres, ben ça a coûté 40 000 $ de goûter, de petites bouchées, 32 000 $ de bar ouvert pour les invités, 18 000 $
de bar ouvert.
32 000 $ de bar ouvert.
Il
y avait 2 000 personnes au cocktail.
2 000 personnes, non, c'est 16 piastres par personne.
Ouais, c'est quand même raisonnable, peut-on dire, mais garde. Ils ont quand même trouvé le moyen.
Toi et moi, on coûte 17 dans une soirée bar ouvert.
Ensemble? Séparé?
Écoute, séparé.
Mais moi, c'est ahurissant.
On a fait de montant moyenne.
Ben, peut-être, ça se peut. Je veux pas m'avancer là-dessus, mais peut-être. Écoute, ça a coûté aussi 18 000 $ dit-on, de décors, de fleurs, de draperies, même si, c'est mentionné dans les documents, il y a des employés de la fonction publique qui ont tenté de réduire les coûts en allant magasiner, entre autres, chez Costco, chez Dollarama, et même chez Jean Coutu, Mario. On serait allé magasiner chez Jean Coutu pour, entre autres, aller chercher du maquillage de dernière minute pour les gens qui sont venus performer parce que le gros du prix se retrouve là, Mario. Je sais pas si tu te souviens, mais il y avait Ginette Renault qui était allée chanter à ce bel événement.
Ouais.
Ben, Ginette Renault, elle facture quand même 12 500 $ quand vient chanter.
C'est les prix. Pour vrai, c'est les prix.
Ouais. Ça coûte cher, mais tu sais, on ajoute à ça Zurumba, un groupe de percussion montréalais qui coûte 15 000 $. Après ça, il y a Florent Volant qui est à 7 000 $, etc., etc. Ça s'est ajouté. Il y avait beaucoup d'argent, disons-le, là, pour les performances. Tout ça pour dire que, ben, près de 150 000 $ de plus ont été dépensés que le budget qui était prévu pour cet événement-là. Et ça, Mario, même si, ben, l'armée canadienne a été gentille, Ils ont pas chargé pour amener les 4 canons pour faire le 21 gun salute et ils ont même fait gratuitement le vol de 2 CF-18 qui sont venus de Bagotville parce que ben ça coûte 34 000 $ faire voler 34 800 pour être précis faire voler ces beaux engins là.
Sauf que c'est nous autres qui payent pareil, fait qu'il faudrait ajouter ça au prix du party, vu qu'on est rendu un party de 750 000 là.
Ah, ça coûte cher hein, quand même.
Ouais.
J'étais pas là, mais j'espère que c'était le fun.
Moi je prends un engagement. Moi, si on me fait un party de 750 000 pour une nouvelle job, Je ferai pas suer après, je vais être gentil, le pas des 4 années qui suivent.
Tu vas pas demander une porte à 250 000 pour pas voir ta garde du corps?
Un escalier de contournement, non. Hey, dans des petites nouvelles vite de la fin, des spectateurs spéciaux pour les Broncos de Denver.
Ben oui, je sais qu'à quel point t'aimes ton football du dimanche, Mario, mais la game...
Moi,
la...
je suis toujours fasciné par l'espèce de soundman, les gens qui mettent du faux son, des faux applaudissements dans des stades vides, juste pour faire l'atmosphère à la TV avec des enregistrements de vieux sons des autres années, je trouve ça hilarant.
Puis tu vas trouver ça encore plus drôle, je pense, Mario, parce que dans le Mile High Stadium à Denver, où les Broncos jouaient pour la première fois devant certains spectateurs, mais c'était à peu près 7,5% de la capacité du stade, là, c'est 5700 personnes à peu près qui pouvaient être là. Ben, il y avait d'autres spectateurs un peu plus spéciaux, puis c'était 1800 personnages de la série South Park, qui est une de mes séries préférées au monde, 1800 qui étaient découpés en carton, grandeur, ben, nature, si on veut.
J'ai même pas vu ça aux nouvelles. Ils ont découpé des bonhommes de South Park en carton.
Ben oui, parce que dans South Park, les gens, la ville de South Park, c'est au Colorado, très près de Denver. Donc, ils ont voulu faire comme un espèce de petit hommage à la série culte, puis... En plus, ça servait...
Mais ça, quand ça se met à huer contre l'arbitre de 1800 personnages de South Park, c'est pas beau tout ce qu'on entend.
Non, ils disent pas des très beaux mots, effectivement, habituellement, mais ça, en plus, ça servait à la charité, Mario, parce que on pouvait acheter ces personnages de carton pour 100$ chaque. Ils ont levé près de 130 000$. Fait que tu fais acheter ton propre personnage, puis ils étaient tous différents, là. Les Eric Cartman, Kenny, Kyle, Stan et autres personnages de la série culte, qui, d'ailleurs, j'en profite pour le dire, parce que j'adore là, leur critique satirique d'à peu près tout ce qui se passe dans l'actualité, puis sont toujours tellement, si on veut, là, dedans, là, tellement près de la nouvelle. Mais le 30 septembre prochain, ils reviennent en onde avec un épisode spécial d'une heure qui va s'appeler le Pandemic Special, où ils vont parler exclusivement de COVID-19. Je pense que ça va vraiment être à écouter.
Ouais. Mais tu sais que dans l'histoire de South Park et du football, là, il s'était moqué du football canadien. Il y avait un épisode, mais c'est dans le film, je pense.
Et ben, il se moque souvent du Canada.
Et une des choses, oui, mais une des choses dont il s'était moqué du football canadien et qui est vraiment drôle, tu sais, t'as une ligue, je pense qu'à l'époque, il y avait 7 équipes dans la ligue. Je pense qu'il y avait même pas 8, parce qu'il y avait 7, il y avait très peu d'équipes. C'était des pires années de la CFL. Et t'avais à Ottawa et en Saskatchewan, les Rough Riders avec un S, puis je me souviens jamais où... Je pense que le S était en Saskatchewan, les Rough Riders, c'était à Ottawa. Fait que tu sais, t'as une ligue, t'as une micro-ligue de très peu d'équipes, puis tu réussis à en avoir deux qui ont le même nom. Et là, tu sais, le descripteur, parce que tu sais, c'est traduit en français de France, là.
Ah oui.
Ce sont les Rough Riders! Contre les Rough Riders! Le ballon est échappé! Il est repris par les Rough Riders!
Oui, ça va rien, je
pense. Un absurde total, une scène mémorable de football canadien avec South Park.
Mais là, il écoutait la partie en direct hier, c'était beau à voir.
Merci, Alex.